confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Bonjour Morgane Giuliani.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice, spécialiste de la pop culture. L'un de vos grands sujets, c'est le phénomène Taylor Swift. Merci d'être avec nous sur RTL. Il sort dans quelques jours, le 2 mai prochain. C'est votre dernier livre, Taylor, Alison Swift, la rebelle devenue icône, chez Talent Éditions. On va en parler tout de suite. Je rebondis d'abord sur la dernière phrase du récit confidentiel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Morgane Giuliani, que la chanteuse qui dirige en quelque sorte le monde, c'est Taylor Swift? Son influence est-elle réellement colossale ?
Son influence est réellement colossale, ne serait-ce que sur l'industrie musicale. On disait déjà d'elle il y a 10 ans qu'elle incarnait, elle était l'industrie musicale aux États-Unis, ouais. Parce que personne ne vend autant de disques qu'elle. Elle a quand même 6 albums qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires dès la première semaine de sortie, ce qui est énorme comme chiffre. Et puis oui, actuellement, c'est la plus grosse pop star occidentale. Elle est très au-dessus de tout le monde, très loin devant tout le monde. Elle a dépassé le milliard de dollars avec sa tournée qui est en cours, le Eras Tour, qui arrive bientôt en France d'ailleurs. Et c'est un record historique. Aucune tournée n'a jamais réussi à dépasser le milliard de dollars de bénéfices. Donc là, en fait, elle accumule les records, c'est-à-dire qu'il en pleut tellement que ça devient même difficile de suivre.
Et il y a un récap pour ceux qui nous écoutent dans le livre de Morgane. À la fin, il y a un chapitre en chiffres.
J'ai choisi quelques chiffres. Voilà, ils ne sont pas tous parce qu'il y en a trop.
Mais ils sont chouettes. Donc voilà, si jamais vous êtes perdu, il y a toujours un petit récap à retrouver dans votre livre. Donc une influence donc musicale, évidemment, aussi économique, politique. On va y revenir dans le détail. J'ai été, j'avoue, surprise par un petit détail dans le titre de votre livre, La rebelle devenue icône. Je m'explique. On raconte dans ce confidentiel, justement, que Swift a toujours tout fait pour être la fille gentille, éduquée pour être a good girl, comme elle dit. Alors, en quoi ? Parce que je vous crois, hein, Morgane Giuliani, en quoi est-elle rebelle ?
Alors, c'est une femme, une artiste qui est pleine de paradoxes. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, elle a toujours voulu être la gentille fille, qu'on l'aime, qu'on la voit comme quelqu'un vraiment pavé de bonnes intentions. Et à la fois, c'est une rebelle aussi au sens où elle a toujours réussi à imposer ses termes, notamment au sein de l'industrie musicale, où elle signe son premier contrat à 14 ans. Là, en ce moment, elle réenregistre ses 6 premiers albums parce qu'elle ne détient pas les droits sur les Master, c'est une première dans l'histoire de la musique.
Taylor's Version.
Voilà, exactement, qui arrive depuis 2021. Et c'est un combat fondamental parce que détenir les droits sur les masters, c'est détenir les droits sur toutes les copies qui sont réalisées en fait par la suite à partir de ces masters originaux. Et donc de plein de manières comme
ça. Aucun artiste au monde ne l'a fait.
Non, aucun artiste au monde ne l'a fait. Alors Prince, lui, à son époque, il avait alerté en disant il faut que les artistes possèdent beaucoup plus leur travail parce qu'ils se font vraiment déposséder par les majors, les labels en fin de compte. Et du point de vue du public, bien sûr, on s'en rend pas compte, mais c'est une réalité. Les contrats se font vraiment
au détriment
exactement, des artistes. Et puis, elle a tenu tête au streaming aussi, à une époque où le streaming explosait. Elle avait décidé de retirer son catalogue de Spotify pendant 3 ans, au moment où sortait son album 1989 en 2014, qui était vraiment son album du virage pop que tout le monde écoutait, que tout le monde achetait. Donc, c'était aussi un pari très osé de sa part de décider à ce moment-là de sortir du streaming. Et donc, pour plein de raisons comme ça, on s'est dit avec ma maison d'édition qu'en fait, oui, c'est aussi une rebelle. Alors, pas une rebelle, on va dire à la James Dean, comme on se l'imagine, très, très sauvage ou qui se retrouve en prison, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se défend et qui, de plus en plus d'ailleurs, à mesure qu'elle vieillit et qu'elle prend en expérience dans l'industrie musicale.
Alors, on revient juste un... Je suis convaincue, merci. On revient juste un instant au balbutiement de l'histoire. C'est donc une ado blonde, jolie, avec du talent, certes, dont les parents font tout aussi pour l'accompagner vers le succès. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi Taylor a réussi là où toutes les jeunes ados américaines un peu mignonnes et un peu talentueuses ont échoué? Pourquoi elle?
C'est une bonne question. Déjà, vous évoquez ses parents, et je pense que c'est important. Ce qui fait souvent la différence entre celles qui parviennent à rester vraiment dans la durée et celles dont les carrières finalement s'éteignent avec l'arrivée dans l'âge adulte, c'est d'avoir un bon entourage. Pour le coup, les parents de Taylor Swift ont l'air en tout cas d'être des personnes très équilibrées, très sérieuses, qui ont su l'encadrer et la guider, et je pense beaucoup la protéger aussi parce que l'industrie du divertissement, c'est quand même très violent. Et puis je pense que parfois c'est aussi une question de planète qui s'aligne, et je pense à nouveau que sa volonté très forte de faire sa musique selon ses termes, ou aussi d'imposer le fait qu'elle voulait écrire ses propres paroles, ce qui est très très rare dans la pop. C'est aussi ça qui la distingue de toutes les pop stars qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi ça, je pense, qui lui a permis en fait, de créer sa patte, parce qu'elle écrit vraiment ce qu'elle ressent, ce qu'elle observe. Par ailleurs, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a un très bon sens de l'observation. Et puis, elle a des talents d'écriture assez quand même indéniables. Et puis, elle s'est formée aussi à ça. Quand elle était toute jeune ado, elle prenait des cours d'écriture de chansons, de composition. Et puis, voilà, je pense que c'est à la fois son talent, bien sûr, et qu'aussi, elle a eu de la chance.
Donc, très bien entourée. Très bosseuse,
ouais.
Convaincue qu'elle doit écrire pour elle-même, assez observatrice, donc avec une sensibilité, avec un don pour finalement raconter son histoire ou ce qu'elle observe.
Oui, je pense une intelligence émotionnelle très marquée et un peu de chance aussi, parce qu'il en faut quand même pour réussir aussi.
Elle a 34 ans, 20 ans de carrière presque, le succès est là, il est incontesté, incontestable. Lors des derniers Grammy aux États-Unis, elle annonce donc, au moment où elle reçoit la récompense ultime, donc le Grammy pour le meilleur album de l'année, pour nos auditeurs, au cas où, je reprécise que les Grammy Awards, c'est vraiment les Oscars de la musique. C'est
cérémonie la, très très importante.
La cérémonie la plus importante aux États-Unis, même dans le monde, pour l'industrie musicale. Donc elle reçoit la récompense ultime, le Grammy pour le meilleur album de l'année, et à ce moment-là, elle annonce la sortie donc de son nouvel album, The Tortured Poets Department. Annoncer si proche l'un de l'autre, deux albums dont l'enjeu est colossal, de gros albums, c'est extrêmement rare. Je ne sais même pas si ce n'est pas une première, encore une fois, dans l'histoire de la musique. Pourquoi elle fait ça, Morgane Giuliani? Est-ce que c'est juste une boulimie de travail, une boulimie de récompense? C'est quoi?
Boulimique de récompense, je pense que c'est un peu le cas. Parce que par exemple, quand elle avait sorti son album Reputation, elle avait très mal vécu d'être quasiment pas nommée au Grammy, en tout cas dans aucune catégorie très prestigieuse où elle avait l'habitude d'être nommée pour chaque album. Donc je pense qu'il y a quand même de son côté une petite addiction aux récompenses. Et puis il y a aussi, je pense, vraiment une addiction au travail, à la musique. C'est une staccanoviste. Là, c'est vrai que quand on fait le compte, en fait, depuis 2020, elle a sorti, je crois, 5 albums en tout. En fait, si on compte aussi les réenregistrements d'albums qu'elle sort en même temps que d'autres albums originaux. Donc, c'est vrai que même en tant que fan, finalement, ça va très, très vite. C'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui où les artistes, on les pousse plutôt, par exemple, à sortir des singles assez régulièrement. Mais elle se retrouve à sortir des albums, là, en l'occurrence, pour le dernier, un double album. Où on se demande, mais quand est-ce qu'elle a le temps de l'écrire, de l'enregistrer? En plus, c'est au milieu d'une tournée mondiale absolument phénoménale. Donc oui, pour moi, il y a aussi une petite addiction au travail, et je pense aussi qu'elle a tellement le goût de l'écriture et je pense qu'elle a un rapport aussi de journal intime, finalement, à l'écriture des chansons. Et comme il s'est avéré que ces dernières années, elle a vécu des choses très difficiles, comme la rupture avec l'acteur Joe Alwyn, qui a été son compagnon pendant 6 ans quand même, c'était sa plus longue relation jusqu'à présent, j'imagine bien que l'inspiration a dû monter et il fallait que ça sorte. Et je pense que c'est aussi la liberté qu'elle a pu acquérir à force de vendre énormément d'albums et d'avoir énormément de fans, c'est que si elle a envie de sortir limite un album tous les ans, elle va le faire en fait. Et elle va pas demander l'autorisation de son label, elle le fait à son rythme. Si plus tard elle a envie de prendre une pause de 3 ans, je pense qu'elle le fera. Et là, elle fait vraiment à son rythme comme elle a envie.
La rebelle, quoi.
Ouais,
elle fait ce qu'elle veut. C'est intéressant aussi de soulever que Taylor Swift vit un succès incroyable et assez rare. Et pourtant, elle souffre aussi. Elle souffre, elle le dit assez ouvertement, notamment dans ses relations amoureuses. Elle a l'air d'ailleurs d'être assez sensible à ça. Elle a l'air de vraiment... Ça a l'air de la torturer, en fait.
Oui, je pense que à la fois, elle a toujours voulu devenir une star de la musique et en même temps, elle vit pas forcément très bien la célébrité, au sens où c'est quand même une surveillance quasi constante. Vous êtes énormément photographiée. Elle explique d'ailleurs dans le documentaire Miss Americana que ça a favorisé des troubles du comportement alimentaire chez elle, d'être photographiée en permanence.
Elle est tombée dans l'anorexie.
Voilà, elle est tombée dans l'anorexie, ce qui n'est quand même pas anodin. Et puis, je pense que ça crée aussi éventuellement des difficultés dans sa vie privée. Elle a une chanson là-dessus qui s'appelle Peace dans l'album Folklore, où elle dit à son compagnon « Je ne pourrai jamais t'offrir la paix, justement. Donc, est-ce que ce sera suffisant ce que je suis, moi, donc ma personnalité, vu qu'à partir du moment où on se retrouve à me fréquenter, on est dans l'œil du cyclone, en fin de compte. Donc là aussi, c'est aussi ça qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, elle a voulu cette vie de scène, notamment, et de célébrité, mais en même temps, je pense qu'elle en paye aussi le prix fort sur, vis-à-vis de sa vie privée, notamment, et de son intimité.
Si tout, elle a 34 ans, hein, je le répète, donc elle est relativement jeune, si tout s'arrêtait demain, est-ce qu'elle a encore quelque chose à prouver, Taylor Swift ?
Je pense qu'elle aura, je pense qu'elle a peut-être un peu moins l'impression qu'elle a des choses à prouver aujourd'hui, parce qu'elle avait pu expliquer que pendant les 10 premières années de sa carrière, elle s'adaptait constamment aux critiques. C'est-à-dire que voilà, on lui reprochait de faire de la country, c'était un peu ringard. Bon, elle avait envie de faire de la pop. On lui reprochait de fréquenter trop d'hommes. Du coup, elle a arrêté, elle se concentrait sur ses amitiés. Et là, on sent, je trouve que ça s'entend d'ailleurs dans son dernier album qui vient de sortir, que elle a vraiment dépasser un peu ce côté-là, je pense, en se rendant compte, de toute façon, peu importe ce que je fais, je serai toujours critiquée, donc autant que je m'écoute et que je m'autorise, comme par exemple, sortir un double album où, qui est hyper intéressant au niveau des paroles, mais qui, je trouve, n'a pas forcément non plus de single évident, par exemple. On sent que, je trouve, sur cet album-là, c'est un espèce de déversoir où elle s'est fait plaisir, et j'ai l'impression qu'elle a pas réfléchi au côté marketing, au côté comment je vais faire pour vendre cet album. Elle avait besoin de sortir
du titre qui ouvre l'album, oui, Fortnite, le duo avec Post Malone, qui ressort vraiment à l'écoute, qui saisit en une fraction de seconde. On en parle depuis tout à l'heure. Donc oui, cet album est donc sorti il y a un petit peu, il y a exactement une semaine. Vous l'avez écouté le jour de sa sortie, tout de suite, en bonne travailleuse, oui. Morgane Giuliani. Quelle a été votre première sentie, la première écoute,
Mon premier ressenti, c'est que je me suis dit, ah oui, là, elle va encore plus loin dans les paroles que ce qu'elle a pu faire, par exemple, dans l'album Midnights, où c'est un peu l'album où elle commence à montrer des côtés négatifs aussi d'elle-même.
Oui, on dit que c'est Midnight, c'est l'album le plus troublé.
Oui, le plus troublé, où elle
Taylor Swift.
Voilà, où elle évoque ses défauts, sa peur d'être narcissique, ses tourments intérieurs. En fait, où notamment, voilà, toujours son envie d'être la bonne petite fille sage, en fait, parfois, clash avec de la colère qu'elle peut ressentir ou de la vanité aussi en tant que star. Bon, je pense que c'est difficilement évitable. Et dans ce nouvel album, The Tortured Poets Department, il y a beaucoup de ça. Il y a vraiment, je trouve, un chaos interne assez violent. D'ailleurs, il y a pas mal d'insultes dedans. Enfin, encore une fois, pour celle qui était vue comme la petite chérie de l'Amérique, là, on est, je trouve, dans quelque chose finalement de très moderne et de très spontané et de très franc. Et j'ai été saisie par beaucoup de paroles, en fait, que j'ai trouvées hyper brutes et violentes, mais qui, en même temps, je pense, reflètent ce qu'elle vit, tout simplement. Et je me suis dit, justement, si elle s'autorise ça, c'est que là, vraiment, elle a passé un cap où elle se sent autorisée à tout faire, en fait.
Et libérée. Ouais. Il pourrait remporter encore une récompense, cet album, vous pensez ?
Oui, je pense que c'est pas impossible. Alors, meilleur album de l'année à voir tous les autres albums qu'on attend encore cette année, mais par exemple, meilleure performance vocale pop, ils ont aussi cette catégorie au Grammy. Je me dis que c'est tout à fait possible.
Ouais. Elle serait totalement éligible. Avant de connaître un succès planétaire, il y a eu quand même quelques étapes marquantes de sa carrière. On y revient dans ce confidentiel, notamment cette fameuse histoire d'humiliation avec Kanye West, finalement. Même si c'est désagréable, c'était extrêmement désagréable à vivre sur le moment, on l'a tous compris, elle l'a exprimé, enfin voilà, l'histoire est plus que claire. À la fin, ça a été un coup de projecteur sur elle, à une époque où elle démarrait encore, hein, faut le rappeler. Est-ce qu'elle aurait été là où elle est aujourd'hui sans cette histoire ? La question mérite d'être posée,
oui,
je pense.
Oui, bien sûr. Peut-être que finalement, je pense qu'elle aurait continué à être une star, parce que je pense que ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'à ce moment-là, aux États-Unis, elle est déjà connue. Donc elle n'en est qu'à son deuxième album, mais elle en a déjà vendu plusieurs millions d'exemplaires. Ses clips passent sur MTV, qui à l'époque était encore très important, c'est moins le cas aujourd'hui, mais on est à la fin des années 2000, donc à cette époque-là, les ados regardent beaucoup MTV. Et puis à ce moment-là, elle est la première star de country à remporter ce prix du meilleur clip de l'année pour une artiste féminine. Je pense que finalement, peut-être que sans cette histoire-là, peut-être qu'elle se serait moins affirmée et qu'on n'aurait pas, en tout cas, la Taylor Swift qu'on a aujourd'hui. Parce que ça a été tellement violent, puis ça a été long. En plus, il y a eu des avancées, puis des reculs. À une époque, ils étaient réconciliés. Et puis finalement, en 2016, Kanye West sort ce single Famous.
I made that bitch famous.
Voilà, où il dit, j'ai rendu célèbre. Où il dit des choses vraiment très, très avilissantes envers elle, très vulgaires, qui là, provoquent provoque beaucoup de colère chez elle, et en même temps elle se retrouve prise dans un imbroglio médiatique avec lui où il affirme qu'elle lui avait donné l'autorisation de sortir la chanson telle qu'elle, elle dit que non. Kim Kardashian, qui était l'épouse de Kanye West à ce moment-là, rajoute aussi son grain de sel. Ouais, ouais. Et puis d'un seul coup, beaucoup de médias se retournent contre Taylor Swift, la montrent comme en fait quelqu'un qui est perfide, manipulatrice, menteuse. Elle est victime d'une campagne de cyberharcèlement aussi, avec des milliers d'internautes qui déversent des commentaires haineux à son égard. Et puis, elle disparaît pendant un an. Et je pense qu'on n'aurait pas, en tout cas, la Taylor Swift qu'on a aujourd'hui, la Taylor Swift affirmée, justement, et qui a arrêté de s'excuser et qui, finalement, au bout d'un moment, s'est rendu compte « j'ai pas grand-chose à gagner à jouer éternellement la gentille fille ». Peut-être qu'aujourd'hui, elle serait encore, entre guillemets, une gentille fille sage, actuellement, s'il n'y avait pas eu toute cette affaire qui a été aussi si médiatisée.
Oui, donc que ce soit Kanye West ou quelqu'un d'autre, peu importe, finalement, la douleur et la blessure a été structurante et finalement, a contribué à la rendre encore meilleure. Y a aussi toutes ces histoires de cœur, donc elle vit sous les yeux des paparazzi, il y a sa guerre, vous en parliez, contre les plateformes d'écoute. Alors je répète, hein, parce que c'est un peu complexe à comprendre, mais très intéressant, notamment dans son combat contre les plateformes. Donc par exemple, il y a une plateforme qui faisait une offre pour inciter aux abonnements avec une gratuité de 3 mois. Sauf que pendant ces 3 mois de gratuité, ça veut dire que les artistes que vous écoutez sur la plateforme ne sont pas non plus rémunérés. Et Taylor Swift dit non, en fait. Que vous vouliez faire de la gratuité pour avoir plus d'abonnés, c'est votre sujet. Moi, je suis une artiste, je travaille, donc j'ai envie d'être rémunérée pour mon travail. Résultat, elle se retire de ces plateformes. C'est des géants. Alors certes, Taylor Swift a déjà beaucoup de succès à ce moment-là, mais faut avoir du courage, quoi. Faut avoir de l'audace pour le faire. Elle a quand même quelque chose à perdre, elle aussi, à le faire, et pourtant elle va au bout. C'est quoi où est-ce qu'elle puise cette force d'aller dans des si gros combats?
Je pense aussi peut-être que d'un côté, le fait que ses parents était dans le marketing, le business. Peut-être que ça l'a aidé aussi d'un certain point de vue, parce que si vous grandissez dans cette famille où il y a déjà un peu cette manne de business, peut-être que ça vous pousse aussi à prendre des décisions comme ça très risquées. D'ailleurs, ses parents l'ont en partie appelé Taylor parce que c'est un prénom neutre, pour lui donner plus de chances de faire carrière si jamais elle voulait travailler dans le business, le marketing, la finance. Donc, ce qui est aussi assez parlant, je trouve. C'est vrai qu'à ce moment-là, elle est complètement à contre-courant de son époque, mais aussi des jeunes artistes de son âge qui, en fait, se disent « de toute façon, maintenant, voilà, ça passe par le streaming, on ne peut pas faire autrement ». Et oui, elle est très culottée. Et d'ailleurs, je me suis déjà posé la question parce que donc elle a retiré son catalogue de Spotify pendant 3 ans et demi, donc au moment de la sortie de 1989 en 2014, qui est à ce jour encore son album le plus vendu. Il s'est vendu très rapidement à 10 millions d'exemplaires, et je me demande parfois si peut-être qu'elle en aurait moins vendu s'il avait été disponible en streaming à ce moment-là.
Probablement.
Voilà, probablement. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à mobiliser les fans à être très nombreux à aller l'acheter, et même encore aujourd'hui, elle réussit à les mobilisée malgré le fait qu'elle est présente en streaming et que voilà, mais ça reste une grosse vendeuse. Et ouais, je pense aussi qu'il y a une question de tempérament là-dedans. Elle croit vraiment que la musique ne doit pas être gratuite. Ça, elle l'a dit dans un édito dans le Washington Post en 2014, parce que c'est un art, donc c'est rare, donc ça a de la valeur. Ouais. Et elle estime que voilà, il ne faut pas dévaluer le travail des chanteurs, et que à la fois c'est super que la musique soit accessible d'une manière qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, mais c'est pas pour autant qu'il faut estimer qu'elle a moins de valeur et que du coup ça doit se passer comme ça, d'une main à l'autre, gratuitement.
Et pas naïve, donc.
Non, pas naïve du tout, non.
Taylor Swift, c'est aussi une artiste qui très très vite décide de maîtriser et verrouiller sa communication. Elle parle très peu aux journalistes. Elle en a peur, c'est quoi son rapport aux journalistes?
Elle a beaucoup beaucoup parlé aux journalistes à ses débuts. Forcément, parce que ça permettait aussi d'aider à la faire connaître. Je pense que, à nouveau, l'affaire Kanye West, mais là plutôt en 2016, l'a beaucoup marquée et blessée. Et aujourd'hui, elle choisit vraiment ses interlocuteurs. Mmh. C'est-à-dire qu'en général, elle va s'adresser aux mêmes, c'est-à-dire, par exemple, le journaliste Zane Lowe, qui fait des interviews pour Apple Music. Elle peut se tourner vers le magazine Elle aux États-Unis. Time Magazine, récemment, elle leur a accordé une longue interview, vu qu'ils l'ont désignée personnalité de l'année.
Ça aurait été surprenant voilà. de refuser. Ouais.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle réserve vraiment sa parole à quelques interlocuteurs qui sont vraiment, entre guillemets, on va dire, tout en haut de la chaîne des médias, quoi.
En 2020, donc un doc sur Netflix sort qui s'appelle Miss Americana. Elle s'en occupe du début à la fin, elle le produit. On reproche d'ailleurs un peu à ce documentaire d'être un peu lisse, un peu lifté en tout cas. Malgré tout, ce doc marque un tournant dans son histoire. Vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, je pense que ça l'humanise, notamment aux yeux des gens qui la connaissaient mal, voire très peu, mais y compris des gens qui peut-être consommaient sa musique, mais sans s'être particulièrement intéressés à qui elle était, quelle était son histoire. Et c'est notamment dans ce doc-là qu'on assiste au moment où elle décide de sortir de son silence politique et de s'engager, de soutenir les candidats démocrates du Tennessee pendant les élections de mi-mandat. Et il y a une scène très très forte que je conseille toujours à regarder parce que moi, en tant que journaliste musique, culture de manière générale, c'est très rare de pouvoir assister à des scènes comme ça où on la voit face à son père et l'entourage de son père. Donc ils sont
dans un canapé.
Un canapé, donc vraiment les gens qui travaillent au plus près avec elle et c'est une dispute en fait avec eux parce qu'elle leur dit à ce moment-là, je veux m'engager en politique, il faut que je sorte du silence. Je regrette en 2016 de ne pas l'avoir fait, donc c'est-à-dire de ne pas avoir soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump. Et son père est très réticent, notamment parce qu'il a peur qu'elle se retrouve menacée, mais aussi qu'elle perde une partie de son public. Et elle leur tient tête et puis elle a une colère qui monte où elle commence aussi à pleurer devant eux, mais pleurer parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, quoi. Et c'est vraiment un tournant dans sa carrière aussi, ce moment-là, parce que il y avait beaucoup de spéculations.
Ça montre beaucoup d'elle.
Ça montre justement aussi le côté rebelle, c'est-à-dire que
dure une heure et demie, deux heures, je ne sais plus. On m'aurait demandé quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans ce documentaire et on s'en est pas parlé avant. C'est moi, c'est assez marrant. Ouais. Et j'aurais dit cette scène-là aussi. Et cette scène est assez incroyable. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, elle finit par dire à son père je te demande pas si je peux le faire, je te dis que je vais le faire.
Oui, exactement, c'est vrai. Elle demande pas l'autorisation.
C'est assez fort parce qu'on sent que malgré tout, c'est dur pour elle de dire ça parce qu'elle est très attachée à avoir une forme d'approbation de la part de ses parents malgré son âge.
Oui, tout à fait, qui sont en fait toujours très, très, très proches d'elle actuellement. Et qui en fait participe à gérer sa carrière. Donc elle est habituée à avoir leur approbation. Et c'est vrai que là, c'est peut-être, je pense, une des premières fois où elle se rebelle justement contre eux. Et cette scène est d'autant plus importante que, de manière générale, les femmes dans la musique pop, on les voit comme un peu des poupées dont les ficelles sont tirées par des hommes, des chanteuses superficielles, artificielles, qui ne racontent rien. Donc de base, la musique pop est un genre qui est très dénigré, mais encore plus quand il s'agit des femmes pop stars. Et là, de voir justement une femme pop star qui tient tête à une rangée d'hommes devant elle, plus âgée qu'elle, il y a aussi, je trouve, un symbole très fort de peut-être aussi, on peut l'espérer, une évolution de l'industrie musicale où peut-être que les chanteuses vont se sentir de plus en plus autorisées à dire ce qu'elles pensent et à prendre des décisions comme ça aussi importantes que celle de sortir du silence politique dans lequel elle était depuis toujours. Et ce moment est aussi important parce que ses détracteurs notamment la dépeignaient beaucoup en idole conservatrice, au-delà des républicains, vraiment même de l'extrême droite américaine. Et là, en ayant cette déclaration-là, en décidant à ce moment-là de s'engager, elle rend impossible ses récupérations. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, le clan Trump a très très peur d'elle. Ils ont peur qu'elle finisse par se prononcer officiellement pour Joe Biden dans cette élection-là, parce qu'ils savent que ça peut leur être très préjudiciable lors du vote.
Ouvrons la page politique, puisque vous y venez. Donc, c'est une année électorale majeure pour les États-Unis. Je le rappelle, la présidentielle en novembre, un duel Biden-Trump, ça y est, on le sait. Dans les derniers sondages, ils sont réellement au coude à coude. Je crois que les derniers chiffres, c'était 45-46. 45 pour Biden et 46 pour Trump. Donc, clairement, si Taylor Swift sort du bois et soutient officiellement Joe Biden, elle peut, vu que l'écart est très très serré dans les sondages, elle peut faire basculer l'élection. C'est aujourd'hui la pop star qui fait trembler Trump et son camp, Taylor Swift. Mais c'est énorme, elle peut faire basculer le résultat de l'élection présidentielle américaine.
C'est une responsabilité énorme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire, par exemple, le Guardian en a interviewé plusieurs aux États-Unis. Parmi une des personnes qu'ils ont interviewées, elle disait si Taylor Swift effectivement se prononce pour Joe Biden, elle peut me faire changer d'avis. Mais en fait, je pense que ça vaut aussi notamment pour les abstentionnistes, notamment les jeunes, qui sont connus comme étant très abstentionnistes, peu inscrits sur les listes liste électorale, elle peut avoir vraiment cette capacité à les rassembler et à les motiver et à leur dire votre voix compte. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs quand elle appelle à s'inscrire sur la liste électorale. Il faut que vous alliez voter à tout prix. Et si elle arrive à mobiliser cette frange-là, notamment américaine, cette frange progressiste en plus, qui est quand même extrêmement durement attaquée ces dernières années, avec beaucoup de recul sur les droits sociaux, ça pourrait éventuellement faire pencher la balance en faveur de Biden, oui.
Elle va, vous pensez, soutenir Biden je sais que la question est difficile parce qu'on n'est pas dans sa tête, mais voilà, votre intuition, elle va soutenir Biden officiellement à un moment donné ?
La question est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 6 mois. Pour moi, je trouve, notamment parce que il se passe tellement de choses énormissimes autour d'elle. Elle est devenue milliardaire. Sa tournée fait l'événement dans le monde entier. Sa relation aussi avec le footballeur Travis Kelce lui est pas mal reprochée, où les complotistes disent qu'en fait c'est un couple monté de toutes pièces pour justement inciter le public à voter Joe Biden. Enfin voilà, mais mais bon, on peut presque entendre des théories comme ça, même à l'antenne de Fox News aux États-Unis, donc qui d'ailleurs sont très véhéments envers elle en lui disant reste dans la musique, la politique ça te regarde pas, justement parce qu'ils savent. On en parlait, ils savent qu'elle a cette capacité de mobilisation.
Parce qu'ils ont peur.
Qu'ils ont peur. Donc, je suis très partagée. Je pense qu'il y a 6 mois, j'aurais dit oui, c'est sûr, bien sûr qu'elle va appeler à voter Joe Biden parce qu'elle l'avait fait pour la précédente élection face à Trump. Et en même temps, aujourd'hui, elle rassemble tellement de crispations. Il y a même des personnes qui ont brûlé des cartons à son effigie à l'entrée des stades de foot parce qu'ils supportent pas de la voir dans les stades venir soutenir son petit ami et de la voir à l'écran. Donc peut-être aussi que pour des raisons de sécurité, elle va décider de ne pas le faire. Et en même temps, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est du 50-50. Ouais. J'ai du mal à avoir une opinion tranchée, alors qu'il y a 6 mois, j'étais beaucoup plus sûre qu'elle allait le faire.
Ouais, c'est évidemment en plus très difficile de se mettre à sa place. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la notoriété est quand même aussi beaucoup un poids pour elle. Elle en parle un peu dans le documentaire Miss Americana. Elle dit que c'est quand même pas facile de devoir tout le temps faire attention à tout ce qu'on dit, parce que de toute façon, quoi que je dise, va être scruté, repris, interprété. Et ça, c'est un vrai poids, en fait, dans sa vie.
Oui, je pense que c'est un vrai poids. Par exemple, il y a eu toute une polémique autour de l'utilisation de son jet privé, qui est une question intéressante, mais qui, cependant, en fait, ne concerne pas que Taylor Swift. Donc souvent, elle sert un peu, je trouve, d'épouvantail, où on va faire d'elle l'arbre qui cache la forêt, on va se concentrer sur elle, alors que derrière, c'est par exemple, en ce qui concerne le jet privé, toutes les célébrités, toutes les people en utilisent. D'ailleurs, ce n'est pas celle qui l'utilise le plus par rapport à d'autres. Donc je peux comprendre aussi qu'il puisse peut-être parfois chez elle y avoir une lassitude et une fatigue, en fait. Par exemple, sur cette affaire-là, je pensais qu'elle allait répondre et elle n'a rien dit finalement. Elle a attendu que ça se calme tout seul. Ils ont juste précisé que parfois elle louait son jet à d'autres personnes et que du coup elle n'était pas ce n'était pas toujours pour elle que le jet circulait. Mais je trouve que ça symbolise aussi le fait qu'on a tendance un peu à hystériser les débats autour d'elle et qu'effectivement le moindre de ses gestes, le moindre de ses prises la moindre de ses prises de parole va prendre des proportions hallucinantes. Et c'est vrai que dans ce cas-là, comment être claire et précise quand vous savez que vos mots vont être tordus très facilement dans tous les sens, ça ne doit pas être évident.
Malgré tout, ce qu'elle a réussi, ce qu'on lui doit, c'est d'avoir monté une communauté de fans, les Swifties, ultra puissantes, ultra soudées, parce qu'aussi elle donne beaucoup. C'est quoi la méthode Taylor Swift avec ses fans, Morgan Giuliani?
C'est aussi ça qui la met vraiment à part de toutes les autres pop stars aujourd'hui, c'est que elle a réussi à créer vraiment un lien de proximité avec ses fans, qui est assez hallucinant, moi je trouve, d'un point de vue même journalistique. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'elle a beaucoup fait pendant des années, c'était de les inviter à des sessions d'écoute privée de ses albums en avant-première. Donc ce sont des fans qui sont vraiment choisis par elle et son entourage. Il n'y a pas de concours, c'est pas payant. Ensuite, elle va les accueillir quelque part, souvent chez elle. Ça va durer des heures, elle va discuter avec eux.
Elle va leur cuisiner
des cookies, des cupcakes. Elle va danser avec eux. On sait qu'une des dernières sessions d'écoute privée qu'elle a pu faire comme ça pour son album Lover à Los Angeles s'est terminée à 5h du matin. Donc c'est une vraie fête, quoi. Elle fait pas semblant. C'est-à-dire, quand elle fait des choses comme ça, elle va jusqu'au bout. Ça, ça ne dure pas juste une heure et ensuite tout le monde rentre chez soi. Elle les gâte, elle peut leur envoyer des cadeaux de nulle part. Elle peut aussi parfois venir en aide financièrement à certains fans parce qu'elle va croiser leur chemin en ligne et se rendre compte que, par exemple, ils ont du mal à rembourser leur prêt étudiant. Enfin, voilà, il y a beaucoup ces questions-là aussi aux États-Unis. Et donc, il y a un peu ce côté aussi, je pense, chez les fans de suspense, de se dire, bah, ça se trouve, un jour, je vais être élue, moi aussi, voilà. Et je vais pouvoir la rencontrer, ou même après l'un de ses concerts. Elle faisait beaucoup ça à une époque. Et puis, elle leur parle beaucoup en ligne. Elle rigole aussi avec eux. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'autodérision. Donc, parce que les fans aiment bien aussi la taquiner, voilà, faire des vidéos rigolotes autour d'elle, et elle adore ça, en fait. Donc, je pense que ça permet aussi cette proximité, et puis ce jeu qu'elle a de mettre ce qu'on appelle des easter eggs, donc des petits indices cachés, que ce soit dans ses paroles, ses clips, les tenues même qu'elle porte, ses posts Insta qui permettent de donner des indices sur ce qui va arriver ensuite dans sa discographie. Ça crée aussi, voilà, un espèce de jeu perpétuel avec ses fans qu'ils adorent, et d'ailleurs elle dit qu'elle continuera à le faire tant qu'elle verra que ça les amuse. Et voilà, aucune star ne fait ça, en fait. Elle a réussi à créer vraiment cette impression de proximité, parce que bien sûr qu'en soi ce n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher facilement, mais elle donne l'impression d'être votre amie, en fait, tout simplement.
Et ça, c'est une énorme force, et c'est aussi assez rare dans l'industrie musicale. Alors Taylor Swift et la France, c'est quand même un sujet, moi je trouve. On ne peut pas dire que ça a été le coup de cœur immédiat entre Taylor Swift et la France. Pourquoi, déjà, à votre avis?
Je pense que, avant tout, c'est parce qu'elle a commencé par la country, qui est un genre musical qui ne nous parle pas du tout, qu'on trouve même ridicule d'ailleurs. On peut voir, peut-être des émissions comme Quotidien qui ont pu déjà un peu se moquer gentiment de compétition, de line dancing ou de choses comme ça. Ouais. Et puis, je pense
pas
qu'elle.
Pas que Quotidien.
Bien sûr, pas que Quotidien, mais parce que j'y pense comme ça.
Il y a des gros clubs de fans de country maintenant partout en France. Les danses en ligne comme ça commencent à se populariser.
Oui.
Mais pendant longtemps, c'est vrai que ça a été plutôt source de.
De petites moqueries. Et puis, quand elle a démarré très jeune à la fin des années 2000, ne serait-ce qu'en France, déjà la country n'était pas écoutée, mais encore moins par les jeunes, qui se tournaient plutôt vers les musiques qu'on dit urbaines, donc le rap, le R&B, le hip-hop de manière générale. Aussi, quand même, encore pas mal le rock à cette époque, la variété. Donc, très difficile pour une Taylor Swift de trouver sa place là-dedans sur le marché français. Et puis, il y a eu une tentative en 2012 où elle a fait une date au Zénith de Paris, mais qui n'était pas remplie du tout et qui est vraiment restée très longtemps comme un gros camouflet sur sa carrière en France. Néanmoins, elle n'a quand même pas abandonné, elle est revenue à chaque fois promouvoir ses albums, donc pas forcément de donner de concerts publics, c'était toujours des concerts pour les journalistes et des fans qui gagnaient des concours, mais ça a pris beaucoup de temps. Je sais que je le répète souvent dans mes interviews, mais il y a une vidéo que j'adore, c'est quand elle s'est rendue à C'est à vous pour promouvoir Shake It Off
et que tout le monde on en parle dans le confidentiel.
C'est incroyable cette image de Gérard Jugnot qui s'ennuie, qui n'en a absolument rien à faire. Et là, il vit le rêve de millions de fans à travers le monde. Il a Taylor Swift à un mètre de lui, qui en plus chante, n'est pas en playback, elle chante pour de vrai.
C'est un moment lunaire.
C'est un moment incroyable. J'adore cette vidéo. Elle me fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, quand vous allez voir les commentaires, il y a des fans français qui présentent leurs excuses en anglais en disant ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient devant eux. Excusez-les, c'est très drôle. Et puis finalement, il a fallu attendre encore ces dernières années pour que ça finisse par percer. Mais je reconnais
c'est
que.
C'est en train de changer.
C'est en train de changer, mais je reconnais que même moi, j'étais surprise qu'elle remplisse 4 fois la U Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. Je ne m'y attendais pas.
On l'a dit, la tournée en ce moment, elle est historique, elle est mondiale, c'est un phénomène, elle est rentable, elle a même un impact économique à chaque fois sur les villes où elle se produit. Donc, il y avait peut-être plus trop de sujets sur le fait que la France allait aussi être embarquée dans le phénomène de ce Eras Tour.
Ouais, mais je sentais quand même encore pas mal de résistance, notamment vis-à-vis des médias. Et je pense que finalement, d'ailleurs, elle a réussi à s'imposer en France en dépit de la froideur des médias à son égard. C'est-à-dire qu'en France, on l'a quand même, je trouve, beaucoup plus longtemps vue comme une personnalité people, plutôt qu'une artiste. Une où artiste, on allait ouais. plutôt s'intéresser à sa vie privée plutôt ouais. que sa musique, ses clips. Et finalement, elle a réussi toute seule. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à ça aussi. Et puis, je pense également le fait qu'elle réenregistre ses 6 premiers albums. Ça permet à un nouveau public qui aurait pu être très réfractaire à l'idée d'aller écouter ses premiers albums de country, de les découvrir avec des nouveaux arrangements, avec sa voix d'adulte aussi, qui est bien sûr très différente de la voix qu'elle avait adolescente. Puis elle avait un énorme faux accent country à l'époque qui peut en rebuter plus d'un. Et je pense que voilà, là aussi, elle a eu de la chance et que plein de petites choses se sont alignées qui ont fait que la France a fini par lui tomber dans les bras. Mais en tout cas, on pourra lui reconnaître qu'elle n'a pas lâché.
Elle n'a pas lâché, elle a pas lâché. Dans quel pays du monde, hors États-Unis évidemment, ça cartonne? Elle est adulée, adorée. Et pourquoi?
Beaucoup de pays anglophones déjà depuis longtemps, comme le Royaume-Uni par exemple. Ouais. Par exemple, là-bas, elle s'est déjà produite dans des stades, elle vend énormément d'albums. Je pense à l'Amérique du Sud aussi. Est très friande Taylor Swift depuis un moment. Quand elle a fait sa première tournée internationale, c'était pour l'album Speak Now, donc en 2010-2011, elle a commencé notamment voilà, par l'Amérique du Sud et puis l'Australie, pareil, pays anglophone, le Royaume-Uni. Je pense que la Suède aussi, j'imagine, parce que c'est une terre pop, c'est la terre d'Abba, c'est la terre de Max Martin, qui d'ailleurs a travaillé avec elle, qui était un énorme producteur pop dans les années 2000. Et voilà, des petits pays, puis petit à petit, je pense un peu comme les dominos, ça a fini par suivre. Et...
Tout le monde a fini par suivre. Ouais. Aujourd'hui, Taylor Swift, c'est donc des chiffres qui donnent le tournis, des records dans tous les sens, une immense fortune, une tournée folle. Qu'est-ce qui lui manque? Un mariage et un bébé?
Moi j'ai envie de dire non, parce que peut-être qu'elle en a pas envie du tout, même si finalement elle en parle. Alors par exemple dans son album Midnight, elle dit que elle en a justement marre qu'on attende d'elle qu'elle se passe la bague au doigt, que qu'en gros, il n'y a pas que les deux extrémités entre guillemets, le plan d'un soir et le mariage qui dure toute la vie. Et en même temps, dans son tout dernier album, The Tortured Poets Department, elle sous-entend que elle a pu espérer une demande en mariage dernier amoureux, Joe Alwyn, qui n'est pas arrivé. Donc c'est à nouveau là tout le paradoxe de Taylor Swift, et elle arrive aussi à transmettre en chanson en fait toutes les émotions et les états par lesquels elle passe, et c'est le fait qu'elle peut changer d'avis. Un mariage peut-être, j'avoue que des enfants, parfois je me pose la question, parce qu'en même temps c'est tellement une bourreau de travail, elle aime tellement sortir des disques, faire des tournées, c'est une fêtarde aussi, hein, je pense qu'on peut le dire, elle adore faire la fête avec ses amis, parfois j'ai presque du mal à l'imaginer avec des enfants, mais bon, qui sait, peut-être que ce sera le cas d'ici quelques années. Mais qu'est-ce qui lui manque? Je ne sais pas. Là, j'ai envie de dire qu'il lui manque quand même plus grand-chose, parce qu'elle coche beaucoup de cases. Après, il restera forcément toujours des gens pour être soit très sceptiques envers elle et envers son talent, soit carrément méprisants. Mais j'ai l'impression qu'elle a un peu quand même fait la paix avec ça. Et je pense que c'était la chose la plus essentielle à laquelle parvenir pour elle, pour qu'elle puisse aussi en être là où elle en est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle s'accorde une liberté et une spontanéité qui permet de convaincre de plus en plus de gens, en fait, à la suivre et à l'écouter.
Puisqu'on est dans Confidentiel et qu'on va aussi un peu dans les zones d'ombre, c'est quoi la grande zone d'ombre de Taylor Swift, s'il y en avait une?
La zone d'ombre de Taylor Swift, j'aurais envie de dire, peut-être justement ce rapport... compliqué et paradoxal à la célébrité, et où à la fois on sent chez elle des choses très paradoxales, où par exemple elle a vécu très en retrait, que ce soit entre 2017 et 2021, on va dire. On la voyait très peu à des fêtes, des cérémonies. Et puis là, d'un seul coup, elle va à l'autre extrême, quoi. Elle sort énormément. On l'a vu à Coachella récemment, au premier rang de certains concerts, à s'amuser. Et je pense que c'est quelqu'un, comme le dit le titre de son album, qui est très torturée, je pense, plus qu'on ne le pense, justement. Je pense parce que comme elle arrive justement à tenir le coup sur scène, à continuer à sortir des albums, je pense qu'à la fois c'est quelqu'un qui est très affirmé, qui en même temps, peut-être d'une certaine manière, est aussi très perdu sur beaucoup de choses dans sa vie. Et ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas, je pense, c'est de réussir à trouver une certaine sérénité,
un équilibre
qu'elle n'a peut-être pas encore réussi à trouver aujourd'hui.
Dernier petit clin d'œil à Beyoncé avant de se quitter. Elle, dont les origines, c'est la musique country. Hein. On l'a dit en ce moment, celle qui fait parler d'elle dans la country, c'est donc Beyoncé. Ouais. Avec son dernier album, est-ce qu'on sait quel regard Taylor a sur la country version Beyoncé?
Je crois qu'elle ne s'est pas encore exprimée sur l'album. En tout cas, son regard envers Beyoncé est extrêmement admiratif. C'est quelqu'un qu'elle admire depuis toujours. Elle s'entend très bien. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'elles sont amies, mais en tout cas, elles ont une très bonne entente. Ce qui est important à redire, parce que leur communauté de fans ont tendance à s'écharper très violemment entre elles. Et d'ailleurs, récemment, quand elles ont chacune sorti un film musical de leur tournée respective, elles se sont chacune rendues à l'avant-première du film musical. Elles ont posé ensemble, officiellement, devant les photographes. Donc on sentait que là, le message était très clair. Ouais. C'était arrêter de nous voir comme des rivales. On ne se considère pas comme des rivales.
On s'admire mutuellement, voilà. On se respecte.
Exactement. Ouais. Et ça aussi, je trouve ça formidable. Et ça peut, je trouve aussi, indiquer à nouveau, une évolution de l'industrie musicale où on va vers plus de sororité que de rivalité entre femmes, parce que c'est aussi un travers du public et des médias, c'est d'essayer de monter des femmes célèbres les unes contre les autres.
Ça permet là, d'avoir des choses à raconter.
Ouais, c'est vrai, mais c'est là que forcément... Enfin, et en les voyant comme ça unies, je trouve que ça donne pour le coup de l'espoir sur la suite.
Merci beaucoup Morgane Giuliani, auteure, grande spécialiste de pop culture, pour aller encore plus loin sur le phénomène Taylor Swift. On peut donc découvrir votre tout dernier livre, ça sort le 2 mai chez Talent Éditions. Taylor, Alison Swift, la rebelle, et on le confirme, devenue icône. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Confidentiel.
Merci à vous.
Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de Confidentiel. Il est signé Dany Matouk pour la réalisation et Marie Conquis pour la programmation. N'hésitez pas à rester connecté sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Vous y retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel, mais aussi les versions intégrales de mes interviews avec encore plus de révélations.
RTL.
Confidentiel.
Confidentielle.